Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle. Vous avez peut-être écouté ce matin Stephen Bellery qui interrogeait Françoise Hardy, pour qui on a tous une passion depuis tant d'années. Elle a 77 ans, elle se dit épuisée par des années de maladie et notamment un cancer du larynx. Et Stephen Bellery lui a posé la question, seriez-vous prêt à demander de l'aide pour mourir? Et elle a répondu, bien sûr, sauf qu'on n'en trouve pas. Je suis dans un état de souffrance vraiment cauchemardesque. La plupart du temps, il faut faire cette loi. Et on en a parlé évidemment dans le journal de 12h30, avec un projet de loi qui arrivera le 8 avril. Et c'est pourquoi nous avons ce débat avec Laurence, qui est notre première auditrice et qui est, je le rappelle, infirmière. Et vous êtes pour l'euthanasie, Laurence?
Bonjour Pascal, oui, complètement.
Rebonjour, expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, tout premier, parce que ça va éviter les pratiques sauvages, puisque ça se fait de toute façon. Et pouvoir rendre la situation confortable, entre guillemets, le plus possible pour les proches également.
C'est quoi les pratiques sauvages?
Alors, je peux moyennement parler de ce qui s'est passé en France. J'ai beaucoup vu en Suisse, puisque j'ai travaillé en Suisse pendant de nombreuses années, y compris comme infirmière libérale. Et ça se fait de toute façon. Alors, en Suisse, il y a certaines associations qui sont très légiférées et qui interviennent dans les hôpitaux, etc. Par contre, il y a encore beaucoup de pratiques, comme on dit, sous le manteau, entre le médecin traitant, les soignants, les proches. Et ça fait peser une lourde culpabilité ou des souvenirs pas très agréables pour les proches, en tout cas. Les soignants, c'est pas très drôle non plus. Et c'est juste pas des ordres écrits pour pas être dans l'illégalité. Mais ça se fait depuis des années et on le sait tous.
C'est-à-dire qu'on abrège les souffrances et la famille, par exemple, qui vient vers le médecin de référence et qui dit « voilà, je ne veux pas voir mon père, ma mère continuer à souffrir comme cela, est-ce que vous pouvez abréger sa souffrance ?» C'est ça?
C'est plus souvent le patient lui-même, parce que les proches, enfin, les médecins sont très attentifs au fait que la demande ne doit pas venir d'eux, évidemment, pour des raisons logiques, mais... En ce qui concerne les patients, souvent, ils s'arrangent avec leur médecin en sachant que leur sort est fixé depuis un moment en disant...
C'est eux qui demandent ?
Oui, très souvent, oui. Et puis, c'est un accord tacite entre le médecin et le patient. Parfois, les soignants, on est mis dans la confidence. Parfois, on le devine entre les lignes. Et puis, c'est depuis des années. On sait que... Quoi qu'il en soit, ça se fait. Et c'est vrai que quand nous, on intervient après le décès de la personne et qu'on accompagne les proches, on se dit que c'est souvent terrible pour une épouse, pour une fille, un fils, d'avoir ça à porter pour le restant de ses jours. Alors que peut-être il a juste donné le médicament que le patient pouvait pas attraper. Même si c'est pas... sa décision, c'est la décision de son père ou de sa mère, mais c'est quand même quelque chose de lourd à porter, même pour un soignant. Ça veut dire que ça nécessite un accompagnement, une formation, enfin, et toute une structure légale claire.
Vous-même, vous avez accompagné, je crois deviner que vous avez accompagné des malades en fin de vie et qui est passé de l'autre côté.
Oui, clairement. Oui. Oui, et c'est pas... Non, c'est pas anodin. On est formé, donc on sait très bien quelles sont nos valeurs et ce qui fait qu'on le fait, qu'on choisit ou non d'accepter ce qu'un médecin va nous dire de faire, mais c'est jamais très net, en fait. Sauf si ça passe par une structure, comme je vous ai dit, très, très, très claire. Mais parfois, et très souvent, c'est des non-dits, c'est quelque chose qui se fait... petit à petit, c'est tout le monde sait, mais personne dit, et c'est vraiment pas confortable. Et en fait, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas juste clair. Quand j'entends Françoise Hardy, ça me fait mal au ventre parce que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi cette femme ne peut pas aller jusqu'au bout de sa vie, de ses choix? C'est juste une liberté fondamentale, voilà. c'est pas à nous de juger si c'est bien ou pas. Si, voilà, c'est juste accompagner. Par contre, il faut vraiment avoir un cadre clair. Et pour l'instant, c'est tellement tabou que c'est larvé et c'est pas sain. Voilà.
Merci Laurence de votre témoignage. Merci vraiment parce que c'est un témoignage à la fois passionnant et bouleversant. Marie-Agnès sera là après la pause. C'est un sujet grave sur lequel beaucoup ont un avis et même j'ai envie de dire tout le monde a un avis puisque par définition tout le monde est concerné ou le sera par la fin de vie. C'est étonnant que cette loi ne soit pas encore mise en place. Tant la demande ou l'opinion est incroyablement favorable. C'est des scores de 80-90% de gens qui seraient favorables à l'euthanasie. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour
vous allez
à
bien.
Tous. Faut-il légaliser l'euthanasie ? Le débat revient avec aujourd'hui avec le témoignage bouleversant ce matin sur RTL de Françoise Hardy. La chanteuse de 77 ans s'est confiée à Steven Bellery. Elle se dit épuisée par des années de maladie, notamment un cancer du larynx.
À partir d'un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrances et où il n'y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C'est la moindre des choses. C'est humain.
Françoise Hardy pense aussi à sa mère qui a eu la maladie de Charcot.
Ma mère a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. De savoir que son médecin pourrait l'aider et faire en sorte qu'elle soit euthanasiée quand elle ne voudrait plus continuer à vivre cette horrible maladie, ça a été un confort extraordinaire. Il faut que la France en fasse autant, enfin. Il faut faire cette loi.
Et à la question, serait-elle prête à demander de l'aide pour mourir ?
Bien sûr, sauf qu'on n'en trouve pas. Je suis dans un état de souffrance vraiment cauchemardesque, hein, la plupart du temps.
Alors est-il temps pour la France de légaliser l'euthanasie ? Oui, pour Sylvie, sur nos réseaux sociaux, quand il n'y a plus d'espoir. Nous devons avoir le droit de mourir dans la dignité. La loi devrait changer, lance Corinne, hein, quand on souffre trop et sans espoir. On doit pouvoir décider d'accélérer son départ. Arrêtons l'acharnement médical, demande JC. Et ce qui est dingue, rajoute Viviane, c'est de voir des gens obligés de quitter la France, d'aller à l'étranger pour obtenir cette délivrance. C'est tout simplement honteux. Et l'Espagne a récemment approuvé la légalisation de l'euthanasie, rappelle Fred. Il est temps que la France s'y mette aussi.
Merci Laurent. On est avec Marie-Agnès qui habite Paris et qui est contre l'euthanasie. Ça va être Absolument. Intéressant d'ailleurs de l'écouter. Bonjour Marie-Agnès.
Bonjour Pascal.
Et vous n'êtes pas sensible aux arguments qui sont donnés. Je les répète, les arguments. D'abord, laisser le choix aux patients. Ensuite, éviter les souffrances inutiles. Le respect du principe de liberté, de dignité de l'être humain. Encadrer une fin de vie qui est d'une manière officielle. Et c'est ce que nous disait Laurence. Ça se fait sous le manteau. Ça, c'est quand même un argument, me semble-t-il, très fort. Et puis, c'est une volonté des Français.
Alors, écoutez, moi, j'ai été confrontée à deux cancers, pas moi. Mon mari, il y a 10 ans, cancer du poumon qui a dégénéré en cancer de la moelle osseuse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et en 85, mon père est mort d'un cancer de la moelle osseuse. Ils sont morts calmement, paisiblement. Mon mari était en soins palliatifs. En France, il existe des moyens. Maintenant, vous avez plein de centres. Vous avez l'Institut Jeanne Garnier à Paris. Vous avez plein de centres où on transfère les gens qui sont en fin de vie, où ils meurent paisiblement et dignement, sans qu'on ait, avec leur souffrance, bon, j'en ai encore la voix qui tremble, parce que je vous assure, mon mari en s'en est aperçu au mois de janvier, et au mois de juin, il était mort. Pendant 2 mois, il a souffert de ça, tant qu'on n'avait pas détecté que c'était parti sur les os, hein. Mais le cancer de la moelle osseuse, je peux vous dire que c'est absolument horrible. Et il est mort paisiblement, dignement, dans un centre de soins palliatifs. Je pense que si vous voulez, maintenant il y a un peu une chose, on refuse la souffrance, on refuse ceci, on refuse l'idée de la mort. De toute façon, à partir du moment où on est, on sait que l'on marche vers sa mort. On veut plus pas occulter ça. On occulte ça. Je pense que qui va autoriser si, moi j'ai fait un papier en disant que je ne voulais absolument pas être euthanasiée. C'est dans mes papiers, mes enfants le savent, je leur ai dit. Parce que je sais qu'en France, on ne vous aidera pas, on ne vous laissera pas souffrir. D'accord ? À ce moment-là, c'est aussi la porte ouverte à tous. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants handicapés. À ce moment-là, ils vont dire, ils souffrent trop, on va les euthanasier aussi. Qu'est-ce qui nous différenciera d'Hitler ? et des médecins d'Auschwitz et des médecins d'ailleurs. Je pense que si vous voulez...
Je ne vous interromps pas, mais le point Goldwyn-Hitler...
Comment ?
Je n'ai pas voulu vous interrompre, mais le fameux point Goldwyn, ce qu'on appelle le point Goldwyn de citer Hitler, si on est sur l'euthanasie, convenez quand même, Marie-Agnès, que c'est exagéré.
Ça peut être exagéré, mais si vous voulez, là, d'entendre ce matin, moi, ça m'a... Bon, je vous dis, j'ai été confrontée, je suis d'une famille de cancéreux, hein.
Mais pour quelles raisons ? Est-ce que ce sont des raisons religieuses qui vous empêchent de passer ?
Il y a une part de religieux, mais il y a aussi une part de me dire ça va être la porte ouverte à tous. À tout. Regardez là, actuellement, moi, je suis excessivement sensible à tous ces problèmes d'éthique et autres. Mais est-ce que vous avez vu aussi le projet de loi de faire cet IVG à 9 mois ? Est-ce que vous avez entendu parler de ça ?
Oui, c'est tout à fait.
Mais immonde.
Oui, c'est, on en avait parlé ici. Alors, Laurence vous écoute, elle est infirmière, et c'est elle la première qui a parlé. Et avec beaucoup d'ailleurs de conviction. Laurence, peut-être pouvez-vous apporter des arguments à Marie-Agnès.
Je ne sais pas s'il y a des arguments pour des gens aussi convaincus. Tant mieux si cette dame choisit ça pour elle. Je crois qu'elle n'a pas été confrontée à... Pardon,
j'ai un mari et un père qui sont morts de ça.
Oui, mais ce n'est pas vous qui avez souffert et vous ne les avez pas... Vous avez, enfin, voilà, c'est le choix de chacun. Moi, j'ai vu des patients pendant 30 ans. Donc, il y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas. Qu'on laisse ceux qui veulent aller jusqu'au bout, c'est tout. Je ne vois pas de quel droit on les empêcherait de faire ça, finalement.
Marie-Agnès ? Non, mais c'est vrai que c'est le droit de chacun, c'est ce que je disais.
Moi, j'ai peur des abus.
Mais c'est quoi les abus ?
Si vous avez quelqu'un qui est inconscient, qui n'a pas fait de papier... On ne sait jamais. Vous avez des gens.
S'il n'a pas fait de papier, il n'y a pas de raison qu'on abrège sa vie. La réponse
est. Ben, on ne sait rien. Parce que si vous avez des enfants, vous avez peut-être des enfants qui seront intéressés par un héritage, qui vont dire écoutez, il l'a dit oralement, et voilà.
Oui, quoi, Marie-Agnès. Ça me paraît des faux arguments au fond. Marie-Agnès, la vérité, ça peut s'entendre. Moi, je ne comprends pas que vous n'assumiez pas... J'ai une amie catholique, par exemple, qui assume sa position de catholique.
Et je suis catholique et pratiquante.
Mais je n'ai pas terminé ma phrase en même temps, Marie-Agnès. Et qui dit, on ne choisit pas sa mort. Voilà. Oui. C'est Dieu qui l'a choisi parce que c'est la foi catholique et ce n'est pas à moi de choisir ma mort. Ça s'entend, si tu es religieux.
C'est aussi ma conviction.
Ben oui, mais vous ne le dites pas.
Ah ben si, je vous l'ai dit que j'étais catholique.
Oui, mais vous ne le dites pas comme je viens de vous le dire. C'est-à-dire que vous n'assumez pas le fait de dire ce n'est pas au patient qui est en train de mourir peut-être, qui est en train de souffrir peut-être, mais ce n'est pas à lui de décider. Ce qui
on
est horrible.
On ne choisit pas de naître non plus.
Pardon ?
Oui, c'est horrible.
On ne choisit pas de naître non plus.
Mais non, mais c'est une position que moi je trouve contestable. Pour la raison que je viens de vous dire, parce que quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui est en train de souffrir, tu lui dis non, c'est pas toi qui vas choisir ta mort, c'est Dieu qui va la choisir, et moi je n'abrégerai pas tes souffrances. Bon, je trouve que c'est une position rude, mais au moins c'est la position de l'Église.
Et oui, mais vous n'avez. Mais qu'est-ce qui vous autorise, vous, à dire que quelqu'un a le droit de mourir ou pas ?
Mais lui, c'est lui qui décide, c'est
ça. Si c'est la personne qui décide, d'accord.
Bah oui.
Mais si c'est quelqu'un qui est inconscient...
Ah, donc vous êtes pour l'euthanasie si la personne décide ?
Ah, mais il fait ce qu'il veut.
Ah bah oui, mais faut-il que la loi soit mise en place. Il peut pas faire ce qu'il veut, justement, puisqu'il n'y a pas de loi en ce moment.
Il peut se suicider, il peut se jeter d'un pont, il peut avaler des médicaments.
Marie-Agnès, quelqu'un qui est en phase terminale dans un cancer va aller se jeter d'un pont.
Enfin, non, c'est très bien, j'ai vu ça.
Marie-Agnès, ça c'est pas bien. 13h18, on va continuer la discussion. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Donc Marie-Agnès et Laurence étaient avec nous et puis on va prendre Evelyne et Jacqueline. Simplement, Marie-Agnès, vous allez rester avec nous parce qu'il y a peu de gens qui sont contre une loi légalisant l'euthanasie. Simplement, on reprend votre dernière phrase. Lorsque Françoise Hardy parle de sa maman qui avait la maladie de Charcot...
Je sais, j'ai un ami qui en est mort.
Oui, donc par définition, cette personne-là est incapable de mettre en place ce que vous appelez un suicide.
Si, la maladie de Charcot, vous êtes conscient jusqu'au bout, parce que c'est la paralysie qui monte au fur et à mesure vers votre cerveau.
Oui, mais vous ne pouvez pas mettre en place mettre en, en action votre suicide, puisque par définition, vous ne pouvez pas bouger.
Oui, votre suicide, d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui.
Donc, faut aider ces gens-là. Et vous, vous dites... Moi, j'entends ce que les gens disent. Quelqu'un qui veut en finir, pourquoi vous l'empêchez d'en finir? Ça, c'est une question, me semble-t-il, sauf à être catholique, effectivement, et à appliquer un dogme de l'Église catholique. Marie-Agnès, vous allez rester avec nous. Evelyne est là aussi. Bonjour, qui habite Perpignan. Evelyne,
oui.
Votre avis
bonjour,
sur notre discussion.
Alors, je vais vous dire tout de suite, Marie-Agnès, elle me choque. Mais vraiment, elle me choque. Elle mélange Hitler avec la souffrance des gens. Mais c'est pas possible d'être comme ça. Écoutez, moi, je suis à 300% pour une loi qui nous permette de mourir dignement. Mon frère est décédé il y a 3 semaines d'une tumeur au cerveau. Effectivement, il était en soins palliatifs. Alors, qu'est-ce que c'est un soin palliatif? Eh ben, on évite qu'il souffre. Hein, puisqu'on lui met des drogues, etc. Mais qu'est-ce qu'il aurait voulu, mon frère? Bon, malheureusement, j'étais loin, hein, puisqu'il est mort à Paris. Il aurait voulu qu'on soit là, autour de lui. Moi, j'aurais voulu être là, effectivement, avec un médecin. Dans tous les cas, mon frère n'aurait pas survécu. Et qui nous dise, bon, ben voilà, on a décidé tel jour, mardi, 15h, voilà. Et on serait venu avec sa fille, mes frères, moi, je serais montée et tout. Et on l'aurait accompagné, et certainement avec le sourire. Parce que par amour de la vie, on devrait avoir une mort libre, consciente, entourée de ses enfants, de sa famille. Une mort digne, choisie, pas tout seul dans la nuit d'une chambre d'hôpital et mourir sans personne. Moi, je suis pour. Et effectivement, Françoise Hardy me fait mal parce que ça a été une femme qui a chanté, qui était merveilleuse. Elle souffre, elle le dit. Je souffre, je souffre. Pourquoi continuer à souffrir comme ça? Voilà, elle va continuer combien? Ben oui, tant que la maladie n'est pas, s'appelle pire, mais souffrir tous les jours, se droguer pour ne plus souffrir. Mais qu'est-ce que c'est? Non, dans tous les cas, ce n'est pas un tabou. La mort fait partie de la vie. Voilà. Tout le monde va mourir. Alors, autant mourir dignement. Dignement, à partir du moment où c'est reconnu que c'est terminé, comme la dame tout à l'heure qui disait que sa mère avait eu la maladie de Charcot, elle doit souffrir le martyr de se sentir paralysée jusqu'au bout des oreilles. Écoutez, c'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible. Je suis pour qu'il y ait une loi, comme la loi pour donner ses organes. Effectivement, dans ce cas-là, faire un papier en disant, mais moi mes enfants sont au courant, je leur ai dit, écoutez, me faites pas souffrir, si j'ai un cancer en phase terminale, je vous en supplie, emmenez-moi en Belgique, emmenez-moi en Suisse, emmenez-moi n'importe où, mais je veux que vous soyez là quand je vais mourir, je veux que vous soyez là, voilà, je veux vous voir, c'est le dernier regard, ce sera mes enfants. Donc
écoutez,
voilà.
Merci,
et donc Marie-Agnès m'a choquée, m'a énormément choquée. Si elle a un animal qui souffre le martyr, elle ne va pas l'euthanasier. Écoutez, on fait ça pour les animaux qui sont en souffrance. Non, non, c'est pas...
Marie-Agnès, qui est toujours avec nous, si elle veut quand même vous dire un mot.
Oui, qui sont morts du cancer, dans des souffrances épouvantables. Écoutez. J'ai été auprès de mon mari jusqu'au bout.
Oui.
Hein, mais il était en soins palliatifs. Mais je l'ai.
Oui.
Et mon père, c'est exactement la même chose. On les a. Ils sont morts paisiblement, apaisés, sans souffrance, mais on les a pas piqués.
Sans souffrance, vous en savez rien.
Et parce qu'ils étaient en soins palliatifs.
Ah, oui. Mmh. Ouais.
Et mon mari jusqu'au bout. On s'est vu jusqu'au bout. Il est mort une heure après mon départ.
Ah ben. Voilà, il est mort.
Je lui ai tenu la main jusqu'au bout.
Ben oui, il est mort après votre départ. Donc vous n'étiez pas là quand il est mort. Voilà.
Si, j'étais là jusqu'au bout.
Oui.
À une heure après son départ, après mon départ, hein, ouais. j'étais dans le couloir en train de discuter avec les médecins. Hein, voilà. Hein, et je sais ce que c'est, mais ce que j'ai peur, c'est des abus.
mais arrêtez d'appeler, arrêtez de dire des abus. Si le médecin dit, écoutez, vous s'appelle mon frère, c'était ça. Mon frère, on a dit la veille de sa mort, il n'y a plus rien à faire. Voilà, il se dégrade complètement, etc. Donc, on savait qu'il allait mourir. Mais il est mort tout seul, du coup. Il est mort tout seul. Il n'y avait personne à côté de lui. Voilà, non. Non, enfin, écoutez, chacun ses trucs. Je suis catholique aussi, hein, voilà, mais je suis pour l'euthanasie avec un médecin. Il y a un médecin qui reconnaît qu'il n'y a plus rien à faire. Et Françoise Hardy qui veut mourir, franchement, qu'on la laisse partir paisiblement, justement, paisiblement, et qu'on arrête de la laisser souffrir pour rien. Voilà, c'est horrible de laisser les gens en souffrance comme ça. Dans tous les cas, la mort, c'est partie de la vie.
Vous avez des centres de soins palliatifs, on ne laisse plus souffrir les gens comme il y a 30 ans, mon grand-père est mort d'un cancer du foie, chez lui, dans des souffrances atroces. Hein, on est d'une famille de cancéreux, alors je sais très bien que j'en aurai un jour ou l'autre. Mais maintenant, on ne laisse plus souffrir les gens comme il y a 20 ans ou 30 ans.
Bon, on va marquer une pause.
Le laisser se dégrader jusqu'à peser 90 et arriver à 35 kilos, je suis désolée, puisque dans tous les cas, la mort sera l'issue de cette maladie. Voilà, autant abréger, voilà.
On va marquer une pause, j'ai pas voulu vous interrompre, hein, toutes les deux, et c'est un sujet grave. Vous pouvez, si vous le souhaitez, voir ce très beau film de Stéphane Brisé, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Quelques jours de printemps », qui était joué par Vincent Lindon, Hélène Vincent, et il y avait également Emmanuel Seigné. Et c'était un homme qui sortait de prison et qui doit aller vivre chez sa mère, et elle est malade d'un cancer incurable, et elle a décidé de choisir l'heure de sa mort. Et c'est un film évidemment particulièrement sombre, mais qui est tout à fait remarquable, et on voit l'itinéraire de cette femme, c'est Hélène Vincent, qui va subir une euthanasie. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
J'ai dit subir une euthanasie, j'aurais dû dire choisir l'euthanasie. Laurent.
C'est la vidéo qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Dimanche à Nice, lors d'un rassemblement d'opposition aux restrictions sanitaires, le chanteur Francis Lalanne a appelé ses fans à la désobéissance.
Je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, voilà. Liberté.
Francis Lalanne ne s'est pas arrêté là. Mettez le masque sur le front, à la ceinture, en boucle d'oreille, fin de citation. Comment qualifiez-vous ce comportement irresponsable, irrespectueux? L'humoriste Mathieu Madénian en a parlé dans une vidéo.
Moi, ce qui me choque, c'est surtout d'apprendre qu'il y a encore des gens qui vont à des concerts de Francis Lalanne, en fait. Ça, c'est choquant. Et d'ailleurs, je tiens à dire aux gens qui sont choqués que le public de Francis Lalanne s'embrasse, vous inquiétez pas, ces gens ont déjà le Covid. Voilà. Parce que je sais pas s'ils ont perdu l'odorat, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont perdu le goût. Si c'était un concert de Francis Lalanne, vraiment,
Très bonne réponse de Mathieu Madénian. Salut Benoît sur Twitter. On a perdu Francis Lalanne, c'est clair, ajoute Kevin. Comment peut-il sortir de telles bêtises irrespectueuses, scandaleux pour tous nos soignants qui se battent au quotidien, pour Benoît, pour toutes les personnes qui sont en réanimation, qui se battent pour survivre. Et Francis Lalanne, arrêtez tout, s'énerve Thierry, chantez si vous le souhaitez. Et encore, je m'interroge.
Merci Laurent. Donc Evelyne et Mariani, elles ont resté avec nous. Laurence aussi. Jacqueline est là. Bonjour Jacqueline, qui écoutait nos discussions depuis 13h et qui a envie de réagir.
Eh oui, alors je soutiens l'infirmière. Je suis contre la personne qui dit qu'il ne faut pas. Moi, j'ai vu souffrir ma mère et tout a été fait, même si ce n'était pas légal. Mais au moins, j'étais là. Elle n'a pas souffert. C'est ce que je voulais. Et elle a dû le faire aussi. Sentir à ses soignants, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Donc, moi, de toute façon, j'ai fait un dossier, mes directives. J'ai un dossier que j'ai donné à mon médecin traitant et un dossier que j'ai donné à mon fils. Voilà. Avec toutes les directives, je ne veux pas souffrir. J'ai eu une vie belle, malgré les aléas de la vie, mais j'estime que ma vie, ma mort, j'ai envie de la choisir calme. Voilà.
Mais aujourd'hui, vous êtes en pleine santé.
En pleine forme, en pleine forme.
Et vous êtes relativement jeune. Je peux dire votre âge, vous avez 69 ans. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où les femmes aisément vont vivre jusqu'à 90 ans, si évidemment elles ne sont pas percutées par la maladie ou un accident.
Voilà, oui.
Donc vous avez quand même devant vous quelques années de plaisir et de bonheur, on l'espère.
Voilà, voilà, pour au moins voir mon fils, ma belle-fille et mes enfants, mes petits-enfants. Voilà.
Mais c'est quoi prendre ces directives?
Alors, mes directives, j'ai sorti par Internet les directives anticipées du gouvernement. Et j'ai marqué tout ce que j'avais envie ou pas envie qu'on me fasse, quoi.
Mais voilà. Oui, mais en même temps, vous êtes dans un pays où l'euthanasie n'existe pas. Donc, ce que vous avez dit, ce sont les directives, j'ai envie de dire, que tout à chacun, sans même demander des directives, aura.
Oui, alors, ce qui est prévu...
À l'hôpital, on ne fait souffrir personne, vous voyez ce que...
Oui, mais je n'avais pas envie de me retrouver dans le coma pendant X mois. Ou ne pas reconnaître mon fils et mes petits-enfants.
Oui, mais ça, par exemple, vous ne... Hélas, j'ai envie de dire que si vous êtes dans le coma aujourd'hui en France, on va pas arrêter cet état-là.
Eh bien, dans ce cas, mon fils est prévenu, j'irai en Suisse ou en Belgique. Et puis
oui,
voilà.
Mais par définition, si vous êtes dans le coma, vous pouvez pas.
Eh bien, mon fils prendra tout en compte, puisque j'ai tout vous notifié.
Je vais poser la question... À Laurence, et pardonnez-moi parce que la climatisation me joue d'un mauvais tour. Je vais poser une question, parce que les questions concrètes, c'est souvent les plus intéressantes, Laurence. Vous êtes infirmière. Quelqu'un entre à l'hôpital et après un choc particulièrement violent, un accident de voiture, pourquoi pas, il est plongé dans le coma. C'est un coma qui apparaît irréversible. Mais les organes vitaux fonctionnent. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, ça dépend s'il a rempli des directives anticipées, déjà.
Ah, merci.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'arrêter ce coma, par exemple?
Ben, écoutez, en tout cas, en Suisse, il y a ce qui est euthanasie passive et euthanasie active. Et l'euthanasie active était interdite, à part par ces associations. L'euthanasie passive, ça
mais en France...
à arrêter les soins. En France, je ne suis pas assez au courant, franchement.
Oui. Parce que je pense, qu'on l'avait vu d'ailleurs pour le dossier Lambert, c'est assez compliqué. Hein.
Oui, c'est très compliqué. D'où l'importance des directives anticipées, oui.
Ouais. Bon, ben écoutez, Jacqueline, merci.
J'ai demandé au notaire, mais le notaire, non. Je voulais laisser un dossier à mon notaire. Il me dit non, c'est votre médecin et tout ça.
Oui.
Et la famille, oui.
Ben merci, Jacqueline.
J'ai de l'humour. Hein. J'ai même fait un petit mot à mon fils. Mon enterrement, ben, pas cher, hein, brûlé. Et puis qu'ils boivent un...
Ça coûte cher de brûler, si j'ose dire. Ah, oui.
Je mettrai de côté quand même. Et de boire un coup à ma santé.
Incinéré, pardon, d'ailleurs, parce que brûler, c'est pas...
Incinéré, oui. Hein. Oui.
C'est pas exactement... Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on va poursuivre cette discussion. Vous restez également avec nous parce que vous allez peut-être avoir envie de continuer cette discussion précisément. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Jacqueline parlait de la directive anticipée. Je rappelle que c'est un document écrit, daté et signé par lequel une personne rédige ses volontés quant aux soins médicaux qu'elle veut ou ne pas recevoir dans le cas où elle serait devenue inconsciente, où elle se trouverait dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. La déclaration de Lisbonne de l'Association médicale mondiale sur les droits du patient énonce que si le patient est inconscient et si en l'absence du représentant légal il y a nécessité urgente d'intervention médicale, le consentement du patient sera présumé à moins que sur la base d'une conviction ou ferme déclaration préalable, il ne soit évident et indéniable qu'il aurait dans pareil cas refusé l'intervention. Donc ça c'est extrêmement important, Jacqueline, hein, la directive, on dit parfois les directives d'ailleurs anticipées que vous avez signées.
Voilà.
Donc vous, par exemple, si vous êtes le cas concret, vous avez un accident de voiture, vous êtes en situation inconsciente, vous êtes plongé dans le coma, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, comme vous avez signé un document, on n'intervient pas forcément sur vous.
Voilà, bah ça sert bien. Oui. Je veux pas qu'on intervienne,
oui. Ah oui, non, mais c'est intéressant parce que parmi ceux qui nous écoutent, je ne pense pas qu'ils soient nombreux à avoir signé des directives anticipées. Oui. Alors c'est vrai que il y a peut-être aussi une question d'âge. À quel âge vous l'avez fait, Jacqueline ?
En 2019.
Donc c'était l'année dernière. Donc vous aviez déjà 68 ans.
Voilà.
Mais évidemment, ça serait intéressant d'ailleurs. Dans la régie, il n'y a que des jeunes gens qui sont là. Je vois Greg Caranoni, je vois. Effectivement, je n'imagine pas. Et comme disait saint Paul, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et la mort entre comme un voleur dans la nuit. Mais bien évidemment, à cet âge-là, Greg Caranoni, je n'imagine pas que vous avez signé des directives anticipées.
Non, mais le sujet me fait me poser la question, par exemple.
Eh bien sûr. Alors après, pour tout dire, Jacqueline, il y a une part de superstition. Parfois, certains disent, est-ce que ça ne va pas ? Je sais que ça existe. Non, mais certains le pensent, le disent, et même refusent l'idée de parler de mort, parce que y a des gens qui sont allergiques. Des gens qui nous écoutent en ce moment, je sais qu'ils sont absolument allergiques à ce type de sujet, qu'ils ne veulent même pas en entendre parler.
Oui.
Et d'ailleurs, ils ne nous écoutent peut-être plus déjà.
Que ma bru est infirmière, et j'en ai déjà parlé, hein, moi j'en parle ouvertement. Je lui dis, bah, tu me piqueras. Hein. Je pourrais pas, mais je sais, je dis, c'est en rigolant.
Faites gaffe avec les belles filles, vous savez. Hein.
non, ça se passe bien.
Bon, Jacqueline, merci. Mais c'est un sujet grave, c'est un sujet sombre.
Oui,
et c'est,
mais il faut le prendre avec bonheur quand même. C'est,
oui, bah, avec bonheur.
On a eu une bonne vie.
Oui.
Moi, je ne me vois pas comme un légume. Hein. Voilà. Et pour mon fils, c'est pour tout ça. Et tout ce que ça coûte à
j'entends bien, mais quand on est, c'est une chose d'en parler à 13h43 à l'antenne d'RTL alors que vous êtes en bonne santé, et peut-être que confronté à la souffrance, c'est ce qui nous fait tous peur d'ailleurs, c'est la souffrance qui nous fait peur.
Ouais. Moi j'ai vu souffrir ma mère.
Ouais.
Et ça m'a fait très très mal, c'est pour ça aussi que j'ai préparé ça, voilà.
Ouais. Sandrine est avec nous, bonjour Sandrine, qui habite dans le Nord et qui voulait témoigner.
Oui, tout à fait, Pascal, merci.
Je vous en prie.
Donc moi, c'est quelque chose qui s'est passé avec mon papa. Tout à l'heure, on parlait de la sédation. Lui, il a eu recours à la sédation. Il faut savoir que la sédation, c'est pas quelques heures ou deux ou trois jours, comme ça a été cité précédemment. Pour nous, la sédation, ça a été 10 jours. 10 jours horribles. Parce que vous ne savez pas à quel moment ça va intervenir. Vous ne savez pas à quel moment, si ça va être la nuit, si ça va être entre midi quand vous partez manger. Si bien qu'à un moment, vous êtes quand même obligé de quitter. Et bien sûr, c'est toujours à ce moment-là que la personne décède. Moi, mon papa est décédé tout seul. On est parti manger entre midi. Ma maman est arrivée à 14 heures. Et là, le choc. Et la chose dont on ne parle pas non plus durant la sédation, c'est l'environnement. Petit à petit, vous voyez votre papa qui perd du poids, qui se dessèche. On ne parle pas du tout de cette horreur. On ne parle pas de l'odeur, Monsieur Pro. L'odeur, quand vous entrez dans la pièce, ça devient innommable. Vous n'arrivez plus, vous entrez dans la pièce, vous ouvrez les fenêtres. Ça, je peux vous assurer, l'odeur, vous l'avez plusieurs années après, vous l'avez toujours dans le nez. Elle est là, elle est présente. Et quand on parle de dignité, ça, je trouve vraiment, c'est pas digne du tout. Ni pour ma maman qui l'a trouvée, ni pour moi qui suis arrivée en courant parce que j'étais partie manger. Et vous restez avec la culpabilité. La culpabilité de dire, mais j'aurais pas dû partir manger, je serais restée à côté de lui. Allez, une heure de plus, tout compte fait, j'avais pas si faim que ça. Et il serait pas parti tout seul. Le fait d'aller à un niveau un petit peu supérieur, comme la Suisse, par exemple, sachant que c'est quelque chose, moi, que j'avais proposé à mon papa, qu'il a refusé, malheureusement. On est tous ensemble. On aurait pu tous être alentour de lui, être là lors de son dernier couple, de son dernier souffle, pardon. Ma maman aurait été là, les amis, la famille, les gens qui l'aimaient et les gens que lui aimait. Ça n'a pas été le cas.
Et pourquoi il a refusé ?
De partir en Suisse ?
Oui.
Parce que son état ne le permettait plus. Ça allait être une souffrance supplémentaire. On était sur un cancer généralisé, il était trop tard.
Il est mort en quelle année ?
il y a 4 ans. Et ça, sachant que depuis, rien n'a changé.
Et on voit
au son... Une sédation de 10 jours.
C'est vrai que la sédation... Et d'ailleurs, dernièrement, c'était l'an passé, il y avait quelqu'un qui avait souhaité mourir et une sédation avait été commencée et elle a été arrêtée parce qu'il y avait trop de souffrance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de...
Tout à fait.
De cette histoire dans l'actualité, ça devait être il y a pile un an. Et on voit en vous écoutant, Sandrine, que la couleur de votre voix d'ailleurs, ce souvenir est présent. Et chaque jour, j'imagine, ce moment où vous avez laissé votre père seul, il n'y a sans doute pas une journée sans que vous y pensiez.
C'est exactement ça, oui. Vous partez manger, vous imaginez?
Ouais. Ce qui est étonnant dans les témoignages que j'entends, c'est que l'euthanasie serait vécue comme un moment, comment trouver le bon adjectif, apaisant, à la fois pour celui qui part et pour l'entourage. On entend le mot communion, vous avez dit ses amis seraient là, son épouse serait là, ses enfants seraient là, etc. Et il y a deux ou trois témoignages depuis le début de l'émission où on entend cela comme une sorte de communion ensemble, d'accompagner celui qui part, de pouvoir le faire. Parce que évidemment, avec l'euthanasie, il y a un moment où on commence le processus d'euthanasie. Je ne sais pas combien de temps ça dure, d'ailleurs, si c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Mais il y a une forme de cérémonie qui se met en place et qui est acceptée et même souhaité par celui qui part et celui qui et ceux qui l'accompagnent. C'est ça que j'entends dans vos témoignages. La pause et à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent, nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Connaissez-vous la chanteuse Iseult?
Je me fais du mal depuis des années.
Elle a été sacrée cette année révélation féminine des victoires de la musique, mais elle fait parler d'elle pour une interview donnée au journal britannique The Guardian. Iseult a déménagé en Belgique, à Bruxelles, car, je cite, « les habitants accueillent la diversité à bras ouverts, ils assument leur passé colonial, à la différence de la France, où c'est toujours un tabou. En France, je me suis senti blâmé pour ce que j'étais. » Comprenez-vous ces propos? Le passé colonial de la France est-il un tabou? 32-10. Et puis les sujets.
Non essentiel.
Non essentiel.
Sachez-le, un job de rêve est à prendre. Un site internet américain recherche un candidat pour regarder l'intégralité des 24 films de la série des James Bond en 30 jours. Le salaire, $1000, environ 850 euros. Bon, au total, 51 heures de vidéo. Les candidats doivent avoir plus de 18 ans, être citoyen américain ou avoir l'autorisation de résider ou travailler aux États-Unis. Et si vous êtes fan de la saga James Bond, venez nous en parler au 3210.
Mais pourquoi?
Tout regarder.
Oui, mais pourquoi?
Tout regarder. Oh ben là, attendez, si vous posez des questions, en plus compliquées...
Je voudrais savoir qu'il
y a 850 euros à prendre.
Bon, bah écoutez, merci.
Vous êtes fan de James Bond?
Écoutez, je l'étais quand j'étais jeune. Moi, j'aimais bien avec Roger Moore et Sean Connery. Et j'ai moins vu les derniers.
Sean Connery, ça s'écrit CH.
Sean Connery. Il y avait l'homme au pistolet d'or. Vivre ou laisser mourir. Ça, c'était quand j'avais 10-12 ans. Bon, Sandrine, merci vraiment de votre témoignage qui était évidemment bouleversant. Nous poursuivons avec Dominique. Et Dominique, il habite en Belgique parce que précisément, l'euthanasie y est autorisée. Bonjour Dominique.
Bonjour Pascal.
Quelles sont vos réactions sur ce que vous avez entendu? Alors, et quelles sont aussi vos volontés à vous? Non pas vos dernières, bien évidemment, mais vos volontés dire, sur ce sujet.
Oui, ce que je veux dire, évidemment, c'est que chez nous, en Belgique, les choses sont beaucoup plus simples, puisque la loi est passée il y a 20 ans. et que donc, j'ai deux exemples à vous donner. Je vais faire rapidement. J'ai 66 ans. Quand j'avais 54 ans, j'avais un ami qui avait exactement mon âge. Il a eu deux cancers consécutifs. Bon, ça s'est bien terminé, sauf que quelques années après, il a eu un cancer au cervical. Là, les cervicales, c'était horrible, il souffrait énormément. Et les médecins avaient fait savoir que c'était, il n'y avait rien à faire. On ne savait pas le soulager, même avec des doses de morphine fortes et autres. Et donc, il a décidé de se faire euthanasier. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, vous rédigez une petite lettre, un petit mot que vous mettez dans vos papiers, ou bien vous le faites savoir surtout à votre entourage. Et quand c'est connu de l'entourage, eh bien, quand le problème arrive, le médecin est consulté, et le médecin consulte lui-même deux autres médecins pour être certain qu'il n'y a pas d'abus, enfin bon, bref, d'héritage ou quoi que ce soit. Et donc, quand ces avis sont réunis, eh bien, alors à ce moment-là, on peut se faire euthanasier. Et je vous rappelle aussi que, enfin, je voudrais vous dire aussi que ça se fait dans de bonnes conditions, parce que ça se fait bien sûr à l'hôpital, mais ça se fait dans un endroit très agréable. C'est une chambre qui ressemble un petit peu à un salon, si vous voulez. Donc on n'a pas le sentiment d'être dans une chambre d'hôpital. Deuxième exemple, qui est très récent, il y a 3 semaines, j'ai la belle-mère de mon fils qui était handicapée, qui avait perdu son mari l'année passée. Elle était handicapée en chaise roulante. Et elle a eu un premier cancer du sein, puis c'était un deuxième cancer de l'autre sein. Et puis finalement, le médecin lui a dit qu'elle avait un cancer des poumons, mais que ça descendait, enfin que c'était, voilà, c'était irréversible, on ne saurait rien faire. Et donc elle a décidé de se faire euthanasier. Pourtant, une grande croyante, catholique, pratiquante, etc. Et donc moi je l'ai eu au téléphone 2 jours avant qu'elle ne se fasse euthanasier. Je lui ai bien demandé s'il avait bien réfléchi, si etc. Elle m'a dit oui, écoute Dominique, moi je ne peux plus vivre comme ça, je souffre beaucoup trop, je vais causer énormément de soucis et de problèmes à mes enfants, mais je pense d'abord à moi, je pars en paix et je pars en toute sérénité. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc là aussi, c'est ce que je voulais aussi faire comprendre, c'est que moi, en tant que Belge, j'écoute votre émission tous les jours. Mais il y a des moments, il y a des choses qui sont dites sur votre antenne qui me font bondir. La France est un pays quand même très conservateur, hein, et qui s'accroche à ses principes, hein, sans possibilité de pouvoir discuter et autres. Je reviens un tout petit peu en arrière avec la loi sur le mariage pour tous. Mais chez nous, il y a 15 ans, hein, que c'est en route, ça, le mariage pour tous. Et chez vous, en France, vous avez eu une manifestation sur manifestation, etc. Ce qui ne s'est pas du tout produit chez nous. Absolument pas. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre.
C'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. Alors, lorsque vous dites qu'on est conservateur, sans doute.
Oui, parce qu'il y a le poids de la religion qui joue encore beaucoup dans votre pays. Hein.
Je suis d'accord avec vous, mais je pensais à ça. Mais en Espagne, il y a une loi qui est en train de passer sur l'euthanasie.
Aussi et un pays très catholique. Hein.
Bah oui, donc c'est nous qui sommes en retard. Mais parce que l'Espagne est très catholique.
Sur les problèmes sociétaux, vous êtes toujours en retard. Je suis désolé, j'ai des origines françaises.
Non, mais je vous en prie. On a juste fait la Révolution française avant tout le monde, mais il n'y a pas de projet. Et puis vous pouvez parler, monsieur le conservateur, vous êtes gouverné par un roi. Alors,
ah non, le roi ne gouverne pas chez nous. Hein.
Mais je vous taquine. Mais il est toujours là.
Il est toujours là, bien sûr. Oui, on y tient. On y tient.
Mais oui, donc chacun a ses conservatismes, d'une certaine manière.
Oui, absolument,
Mais là, c'est intéressant. Ce que vous dites, Dominique, sérieusement, parce que sur ces sujets société, les deux exemples que vous avez pris montrent, peut-être à chaque fois pour des raisons religieuses, hein, France était la fille aînée de l'Église.
C'est ça,
peut-être qu'il y a des réticences, mais je pense que la très grande majorité des Français dans les deux cas sont évidemment favorables. Il y avait un sondage le journal du dimanche, 75% des gens sont aujourd'hui pour le mariage homosexuel. 75%. Plus qu'une large majorité.
Oui, tout à fait, absolument.
Merci Dominique, ça a été des sujets très lourds, très graves et passionnants, donc, parce qu'on sera tous sans doute confrontés un jour à pourquoi pas devoir choisir le moment où nous devons partir. Il est 13h58, on va parler, ça va être infiniment plus léger et en même temps, je pense que les auditeurs ne seront pas contents contre Francis Lalanne et sans doute vont-ils l'exprimer après la pause et le flash.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous avez peut-être vu la vidéo de Francis Lalanne qui chantait devant quelques fans à Nice et qui leur proposait de s'embrasser et de retirer leur masque. Vous avez été choquée par cette vidéo, Elisabeth ?
Ouais, je dirais juste une chose. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Ah, faisons attention quand même, parce que n'insultons pas Monsieur Lalanne en l'espèce. Donc je propose d'enlever le modérateur que je suis, propose peut-être de retirer ce mot que vous avez dit et vous pourrez développer plus amplement votre pensée. Alexandre de Saint-Aignan pour le Flash.
Le week-end de Pâques sera un week-end à haut risque, prévient Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur promet des contrôles intensifs dès ce jeudi pour éviter le départ des habitants depuis les départements confinés. Il y a déjà eu 25% de verbalisations supplémentaires le week-end dernier pour faire respecter les restrictions de déplacement et le couvre-feu. Depuis plusieurs jours, de nombreux soignants alertent sur le risque de saturation des services de réanimation, le tri des malades dans les hôpitaux. C'est une ligne rouge absolue, affirme tout à l'heure le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Un nouveau conseil de défense aura lieu demain à l'Élysée. Emmanuel Macron pourrait ensuite décider d'imposer des mesures plus strictes. Une accélération des livraisons de vaccins le mois prochain. La France devrait notamment recevoir 200 000 doses du laboratoire américain Johnson & Johnson la semaine du 19 avril, 350 000 doses la semaine suivante. C'est le quatrième vaccin pour lequel une seule injection est nécessaire. De son côté, BioNTech revoit ses objectifs de production à la hausse. Le laboratoire allemand, associé avec Pfizer, prévoit de fabriquer jusqu'à 2,5 milliards de doses cette année, 25% de plus que prévu. À l'instant, on apprend que la ville de Berlin suspend la vaccination avec AstraZeneca pour les moins de 60 ans. On aura plus d'explications d'ici quelques minutes. L'Italie va imposer une quarantaine aux voyageurs en provenance de l'Union européenne, 5 jours en plus de présenter un test négatif. La météo pour demain, encore du grand soleil et des températures bien agréables. 18 degrés à Marseille et à Nice, il fera 22 à Lille, 23 degrés à Paris, 24 degrés à Lyon.
Merci Alexandre.
Avec plaisir.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
On va mettre un peu de légèreté dans nos débats parce que je reçois des messages. Il y a quelqu'un qui me dit une heure d'euthanasie, je me sens pas bien. Et puis il a entendu qu'on allait parler de Lalanne. Il a dit finalement continuer sur l'euthanasie.
Oh.
Mais c'est de l'esprit, c'est un peu d'humour, bien évidemment. Et il en faut, je le dis, aujourd'hui quand il y a de l'humour, on est presque obligé de dire attention second degré.
Vous voulez écouter un peu de Francis Lalanne ?
Bah, écoutons déjà la séquence qui pose problème à Nice, puisqu'il a parlé devant des fans, devant des Niçois, et il leur a proposé de mettre leur masque. Est-ce que nous n'avons pas cette séquence-ci tout à l'heure
Nous l'aurons dans quelques secondes, absolument.
Nous l'aurons dans quelques secondes. Elisabeth, donc j'ai retiré le mot que vous avez dit parce que...
Vous avez été mis en attente.
Ah, bah écoutez,
Elisabeth, on peut écouter Francis Lalanne.
Bon, alors écoutons Francis Lalanne.
Je préfère. Je vous propose de commettre un délit. Sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien, je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, partagez. Voilà. Liberté, liberté.
Bon, Elisabeth est de retour ou on parle avec Anthony ? Commençons avec Anthony peut-être, qui est ergothérapeute. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour Pascal.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence qui fait... Alors, c'est une séquence pour réseaux sociaux, pour le coup, parce que ça fait beaucoup, beaucoup parler.
Oui, tout à fait. J'ai vu ça sur le fil d'actualité d'Estrosi. Bon, en soi, si je prends du recul par rapport à la situation, il demande juste à des gens de se faire un câlin, quoi. Se faire un bisou, de se rapprocher. C'est sûr que le contexte n'est pas propice à ça. Maintenant, c'est tout, c'est rien, quoi.
Bah, ça peut être dangereux quand même. Alors, il a également livré un réquisitoire contre la société. Il a dit arrêtez de consommer. Le consumérisme est un virus bien plus dangereux que le Covid. Arrêtez de consommer. L'État sera à genoux. Les messages anxiogènes délivrés toute la journée par le gouvernement sont là pour rendre malade psychologiquement les gens et c'est délibéré. Ce qui est ennuyeux chez Francis Lalanne, que je connais un peu parce qu'il a longtemps suivi les matchs de l'équipe de France de football, c'est qu'il y a une forme de dérive un peu depuis de nombreuses années, parce qu'au départ, c'était un chanteur et puis il restait dans son couloir. Et aujourd'hui, il y a une forme de complotisme qui se met en place. Il a voulu faire de la politique et à chaque fois, c'est pas très efficace, disons-le.
Bah, il a ce côté un peu chanteur-poète, un peu perché.
Bah, s'il n'était que ça, parce que là, on est sur le complotisme, vous voyez. lorsqu'il dit le gouvernement est là, c'est délibéré, voilà, toutes ces phrases-là qu'on voit sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Parfois, c'est pas ce qu'on attend de lui.
Moi, Pascal, j'ai pas, enfin, sur la vidéo que j'ai vue, en fait, durait 45 secondes, je vois juste faire cette annonce hein, pour que les gens, en expliquant que se faire un bisou, c'est un délit, mais qu'il n'allait pas être embarqué par la police ou quoi que ce soit. Voilà, moi, c'était surtout par rapport à ça hein, que je réagissais. Maintenant, il explique derrière l'aspect complotiste et tout ça. Bon, voilà, c'est pas le truc qui m'avait interpellé sur la vidéo, on va dire. Je voulais simplement, Pascal, si vous me laissez deux minutes,
je vous en prie.
Sur la fameuse vidéo dont je parle d'Estrosi, là, et je bifurque là-dessus, il dit, Estrosi, que c'est irresponsable, c'est pas normal, que par rapport au personnel soignant, voilà, c'est un manque de respect total. Je voulais simplement remettre un peu les choses dans le contexte. Estrosi, il a été député de 88 à 2012 ou 2013. Donc pendant quasiment 25 ans, il était au Parlement, et puis il a été ministre à plusieurs reprises. Pendant toutes ces années, il a participé au fait de détricoter le système de santé. Aujourd'hui, en 15 ou 20 ans, il y a 70 000 lits de réa qui ont disparu, et malheureusement, le personnel soignant qui va avec. Et donc, quand je vois Estrosi, qui ouvertement, on va dire, fustige Dallan juste pour faire des bisous ou des câlins dans la rue, excusez-moi, mais la personne irresponsable entre Estrosi et Dallan, c'est plutôt Estrosi.
Merci Anthony pour ce témoignage. Merci beaucoup.
Voilà.
Une pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ça, c'est le Dallan qu'on peut apprécier. En plus, c'est une très belle chanson et on aimerait peut-être qu'il se contente de chanter et qu'il ne propose pas aux uns aux autres de s'embrasser et de laisser tomber le masque. Parce qu'effectivement, vis-à-vis des soignants, vis-à-vis de ceux qui souffrent, hein, également de ceux qui ont la Covid-19, ces personnes-là peuvent se sentir blessées, disons-le. Alors, Elisabeth est de retour avec nous. Elisabeth.
Oui, Pascal.
C'est à vous maintenant.
Oui, donc comme tout à l'heure, je l'ai dit, mais avec modération de votre part. Non, mais c'est vrai que tout est dit avec le comportement de Francis Lalanit. Je comprends le ras-le-bol général des Français, mais de là à appeler à être aussi inconscient, ça fait presque une forme de désobéissance.
Ben, c'en est une. C'est une. Il prône la désobéissance civile, d'autres que lui, oui. D'ailleurs, le prône
vrai,
aussi.
On en a tous marre de vivre sous des contraintes depuis un an, mais... Le problème, ça tient quand même au fait que les Français ne respectent pas les gestes barrières.
Vous trouvez ?
Chacun... Ah oui. Moi, je vois, nous, en Moselle, on est en confinement. On a un couvre-feu et tout depuis le 6 février avec l'obligation de porter le masque partout, voie publique et commerce. Ben, on compte sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui peuvent porter le masque quand on se balade ici et là. Donc, moi, je me dis que... Là, on n'est pas prêt de s'en sortir. Alors maintenant, on attend la prise de parole de Jupiter pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Mais quand on voit des comportements irresponsables comme celui de Francis Lalanne, par exemple, je me dis qu'on est mal barré.
Bah, je vais vous dire, il est temps que la vaccination arrive, et tant mieux puisqu'elle est là. Ça veut dire qu'a priori, dans 6 mois, tout ça sera fini.
Oui, on peut. J'ai du mal à croire au monde des bisounours.
Bah, écoutez, la vaccination, aujourd'hui, il y avait 0 personne décédée hier à Londres.
Ah oui, ça je sais, je regarde les chiffres, je compare, etc. C'est vrai que c'est
donc c'est pas rien quand même, aucune personne décédée à Londres. C'est la première fois depuis des semaines et sans doute des mois.
Maintenant, maintenant, on attend pour nous. On attend. Bon, moi j'ai eu la chance d'être vacciné, mais je veux dire, c'est vrai qu'on a du mal à voir arriver les doses en campagne, etc. Enfin, et puis le problème c'est que... Bon, certains sont encore réticents. J'ai encore pas mal de personnes dans mon entourage pourtant qui sont des personnes à risque. Mais non, elles ont encore des réticences.
Réticences à la vaccination ?
À la vaccination.
Écoutez, faut les persuader parce que c'est ce qui va nous permettre de s'en sortir. Et Jean-Michel Blanquer, c'est une information du jour, a proposé à Emmanuel Macron de vacciner tout le personnel enseignant.
Tous ceux qui voudront bien se faire vacciner.
Oui, mais il y a une majorité d'enseignants qui ont une large majorité même qui ont envie de se faire vacciner. La vaccination ne sera pas obligatoire. Mais il y a 5 millions de doses.
Ouais, mais c'est quand même surprenant. C'est parce que quand on voit que les personnels soignants ont du mal à se faire vacciner alors que elles sont vraiment au contact vraiment des personnes à risque, et les enseignants, eux, sont favorables à se faire vacciner alors qu'on va dire qu'ils sont moins en contact avec des personnes à risque.
Bah oui, vous avez raison. Je ne m'explique pas forcément cette différence. Merci en tout cas, Elisabeth.
Pascal.
Restez avec nous parce que Thierry est là qui habite la Charente. Bonjour Thierry, on parle de Francis Lalanne et de sa prise de parole à Nice et de sa volonté d'enlever le masque, de le jeter par terre.
Une des grandes phrases philosophiques de Lalanne, hein, ça fait partie de... Malheureusement, ses derniers succès, parce que niveau musical, on peut pas dire qu'il surfe sur le succès. Et puis bon, si ça concerne que ses fans, il n'y a pas lieu de paniquer, parce que ça, on ne doit pas les compter non plus en millions. Et à la limite, je le prends au second degré, son intervention. C'est à l'image du personnage d'aujourd'hui. Je pense qu'on est même des fois presque à la limite de la psychiatrie avec lui. Quand on voit ses comportements sur les plateaux télé ou les phrases qu'il peut dire, c'est lunaire, quoi.
Il s'est un peu décrédibilisé en multipliant.
Non mais Pascal, pour être décrédibilisé, il faut déjà à un moment être crédible.
Mais il l'a été. Il a écrit des belles chansons. La chanson qu'on entendait tout à l'heure, qui est la chanson.
Je vous parle de son parcours hors chanson.
Oui, bah c'est ça. Je suis d'accord avec vous.
Ouais. Et après, vous rendez compte, ce type-là, si demain il devait intervenir sur le SIDA, il propose quoi sur la place? Des accouplements sans préservatif?
La volonté de faire parler de soi, parfois, lui permet toutes les outrances.
Comme disait Coluche, j'ai l'impression que ceux de l'année prochaine sont déjà en avance. J'ai pas prononcé le mot. Je laisserai à chacun interpréter. Mais c'est de l'humour, on a le droit, hein, c'est la liberté de parole.
En plus, ce qu'il dit n'est pas très drôle et évidemment pas très intelligent.
C'est nul,
il a dit que tout ce qui...
Ça mérite même pas d'être qu'on en parle. C'est tellement ridicule, c'est tellement nul. Vous vous rendez compte que ce type-là, il y a un mois en arrière, il demandait la destitution du président de la République. Il demandait à ce qu'on marche sur Paris pour destituer le président. Non mais il y a un moment, là je vous dis, on est limite psychiatrique quand même. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui le soutiennent, qui l'écoutent et le portent en avant.
Bon, il n'y en a pas beaucoup.
Vous me direz. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Il n'y en a pas beaucoup. Et pour tout dire, je vais vous écouter. On ne va pas continuer la discussion. On va terminer avec Sarah parce qu'elle attend là depuis un moment. Mais après, on parlera d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit prendre la parole? Et on terminera l'émission avec Emmanuel Macron. Mais comme Sarah attend depuis un petit moment, je ne voulais pas qu'elle ait attendu pour rien, Sarah.
Bonjour.
Merci.
Bonjour Pascal.
Merci Sarah d'être avec nous. Vous, ça vous choque pas trop?
Alors, ni ça me choque, ni ça me choque pas. Simplement, ce que je disais à votre collègue, c'est que comme tout le monde donne son avis sur tout, il n'y a pas de raison que Francis Lalanne ne le donne pas, tout simplement. On est abreuvé d'épidémiologistes, d'urgentistes, de médecins, de tout ce que vous voulez sur les plateaux, avec des données et leur contraire systématiquement. On les a écoutés ou pas, on écoute Francis Lalanne ou pas. Il n'y a rien qui me choque dans ça, puisque tout le monde, on est dans le temps où tout le monde...
Non mais là, on pourrait l'écouter, mais là, il propose que les gens s'embrassent et jettent leur masque. C'est ça qui a choqué.
Mais Pascal, il propose ce qu'il veut. Celui qui souhaite l'écouter, l'écoute. Celui qui ne souhaite pas, passe son chemin, tout simplement. C'est comme pour tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. On peut se permettre d'envoyer des messages sur Internet incendiaires, les insultes, etc. Il fait ce qu'il veut. On est dans un pays libre, a priori, un peu moins depuis un an, mais il n'y a rien de choquant. On l'écoute ou pas. Il a le droit à la parole. Je ne suis pas fan de Francis Lalanne, loin de là. Mais il a le droit à la parole, comme tout le monde donne son avis surtout sur le Covid. Les médecins, les non-médecins, voilà.
Pourquoi les journalistes, disons-le.
Disons-le.
Vous pouvez me mettre dedans, hein, je le donne
non,
aussi, mon avis.
Non, je ne me permettrai pas, je vous apprécie trop pour ça.
Mais non, mais vous avez raison, je donne mon avis.
Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Et juste une petite parenthèse concernant le Covid. Il y a une chose dont on ne parle pas ces derniers temps et qui, moi, me... Je n'ai pas, parce que je vous suis beaucoup, hein, que ce soit à la radio ou à la télé. J'ai regardé hier soir la personne de la PHP puis derrière le représentant des cliniques privées d'Île-de-France, vous aviez une version et la deuxième version. C'est juste un exemple, d'accord ? Par contre, là, ces derniers temps, on ne s'interroge pas sur la montée des de l'épidémie dans les pays qui ont commencé à vacciner en masse. Voilà. Je voulais juste faire cet aparté-là.
Où est-ce que la reprise de l'épidémie dans des pays où on vaccine en masse ? Mais les pays où on vaccine en masse, c'est Angleterre et Israël. C'est là
Exactement. Et regardez les chiffres, hein, si vous regardez à la loupe. L'épidémie est repartie à exploser à ce moment-là, au niveau de la vaccination. Il n'y a aucune explication là-dessus.
Vous m'étonnez. En Israël, l'épidémie ne reprend pas.
Que si, les contaminations reprennent.
Bah, où est-ce que vous avez vu ça?
Écoutez, c'est des sites anglais sur lesquels je vais. Je vous recommanderais. Je me permettrai de vous rappeler si vous le souhaitez, je vous donnerai
Mais je vous en prie, mais je vais surtout vérifier immédiatement, mais je ne pense pas qu'en Israël, c'est assez facile de vérifier aujourd'hui, sur le site notamment Covid Tracker, dont on a souvent parlé ici à RTL, je ne pense pas qu'en Israël, l'épidémie reprenne. Merci en tout cas Sarah, merci beaucoup, et on terminera avec Emmanuel Macron, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole ces prochaines heures ? Est-ce que la France attend son message ? Théo, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, merci de me donner la parole.
Je vous en prie.
Je voulais réagir suite justement au sujet du jour sur la prise de parole d'Emmanuel Macron. Donc déjà, je suis étudiant à l'Université de Lorraine. Et moi, j'aimerais bien en fait que Emmanuel Macron prenne la parole le plus vite possible, dans les prochains jours, si c'est possible. Parce que, en fait, j'ai l'impression, enfin, je pense que les Français, historiquement, sont, enfin, c'est un peuple qui a besoin d'une figure vraiment dominante, d'un seul chef. Et là, le problème, c'est que ça vient de partout, en fait. Il y a des informations qui nous viennent de partout. On a Olivier Véran, on a Jean Castex, on a Jérôme Salomon, enfin, on a toutes ces personnes-là, les porte-paroles du gouvernement. Et je pense que ça serait beaucoup plus simple pour les Français d'avoir une seule ligne directrice qui serait prononcée par le président de la République. Et c'est pour ça que pour moi, plus tôt il parlera, mieux ce sera en fait.
Et qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous attendez qu'il dise ?
Moi j'aimerais, enfin pour la situation des étudiants déjà, ce que j'aimerais, c'est que, enfin ce que j'aimerais, ça serait déjà qu'il prononce, comment dire, il mette les vacances plus tôt en fait. Ce que j'aimerais, ce que beaucoup d'étudiants de ma promo aimeraient bien, c'est que les vacances d'été par exemple, en juin, juillet, août, ils mettent par exemple un mois de vacances maintenant, comme ça les cours en distanciel qu'on a, on n'a plus à les suivre parce que c'est vraiment une catastrophe les cours en distanciel, rester 8 heures derrière un ordinateur, parce que par contre les examens sont en présentiel. Donc ça on a les cours en distanciel, les examens en présentiel, c'est le même niveau d'exigence, les notes sont en train de baisser complètement, ça, c'est en train de devenir une catastrophe. Donc moi je pense que pour les étudiants, que ce soit lycéens ou collégiens aussi, s'ils mettaient un mois de vacances maintenant, et qu'ensuite on rattraperait ce temps de vacances, par exemple sans être en vacances au mois de juillet, où là on pourrait retourner en présentiel, ça serait beaucoup mieux en fait.
C'est-à-dire que vous échangez les vacances, en ce moment vacances pour les raisons que vous venez de dire, et pas de vacances en juillet, c'est ça ?
C'est ça en fait.
Qu'en juillet il y aura peut-être le vaccin et ça ira mieux, c'est ça votre logique ?
Exactement en fait. Je pense, en plus,
compliqué à mettre en place, hein. En théorie pourquoi pas, mais compliqué à mettre en place.
Pas compliqué justement, mais je pense en plus il y aura le temps qui ira mieux aussi. Parce que là le vaccin, comme il fait froid, mars, avril, etc.
Je suis d'accord avec vous, mais si vous mettez tous les étudiants en juillet à l'école ou à la fac, ça va pas être simple. Je suis pas sûr qu'en plus tout le monde ait envie de suivre votre idée.
Bah, je pense honnêtement, quand je regarde les étudiants autour de moi, on en parle dans la promo, si c'est le prix pour avoir des cours en présentiel avec une certaine qualité et de mettre fin vraiment au distanciel qui est vraiment un cauchemar, le distanciel c'est horrible, c'est juste horrible en fait. Quand on est dans une chambre étudiante 8 heures derrière l'ordinateur à suivre un cours magistral, c'est juste la moitié des étudiants de ma promo en droit ont décroché, ça va être une hécatombe je pense.
Voilà. Bon, bah merci beaucoup Théo de ce témoignage. Je crois qu'aujourd'hui, des auditeurs gagnaient des boîtes de chocolat.
Mais oui, absolument Isabelle.
Cette semaine sur RTL, à l'occasion des fêtes de Pâques, tous les auditeurs qui passent à l'antenne remportent un assortiment d'un kilo et demi de chocolat Jeff de Bruges, composé d'un coffret de lapin en guimauve, enrobé de chocolat, de petits œufs garnis et de chocolat Jeff de Bruges spécial Pâques. De quoi faire plaisir et vous régaler.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Faut-il légaliser l'euthanasie ? Le débat revient aujourd'hui avec le témoignage ce matin sur RTL de Françoise Hardy. La chanteuse de 77 ans se dit épuisée par des années de maladie. Et à la question posée par Steven Bellery, seriez-vous prête à demander de l'aide pour mourir ? Sa réponse.
Bien sûr, sauf qu'on n'en trouve pas. Je suis dans un état de souffrance vraiment cauchemardesque hein, la plupart du temps.
Laurence est infirmière libérale, elle a été très touchée par le témoignage de la chanteuse.
Quand j'entends Françoise Hardy, ça me fait mal au ventre parce que je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi cette femme ne peut pas aller jusqu'au bout de ses choix ? C'est juste une liberté fondamentale. C'est pas à nous de juger si c'est bien ou pas, voilà, c'est juste accompagner.
Un avis partagé par Evelyne au 3210.
On devrait avoir une mort libre, consciente, entourée de ses enfants, de sa famille. Une mort digne, choisie, pas tout seul dans la nuit d'une chambre d'hôpital et mourir sans personne. Moi, je suis pour. Et effectivement, Françoise Hardy me fait mal parce que ça a été une femme qui a chanté, qui était merveilleuse. Elle souffre, elle le dit.
Et sur le sujet de la fin de vie, Evelyne a déjà averti ses proches.
Moi, mes enfants sont au courant. Je leur ai dit, écoutez, me faites pas souffrir. Si j'ai un cancer en phase terminale, je vous en supplie, emmenez-moi en Belgique, emmenez-moi en Suisse, emmenez-moi n'importe où. Mais je veux que vous soyez là quand je vais mourir. Je veux vous voir. C'est le dernier regard, ce sera mes enfants.
Mais Marie-Agnès ne veut pas entendre parler d'euthanasie.
Moi, j'ai fait un papier en disant que je ne voulais absolument pas être euthanasiée. C'est dans mes papiers, mes enfants le savent. Je leur ai dit, parce que je sais qu'en France, on ne vous laissera pas souffrir.
Un choix qu'elle a justifié sur l'antenne.
Il y a une part de religieux, mais il y a aussi une part de me dire « ça va être la porte ouverte à tout ».
Et sinon, un sujet beaucoup plus léger aujourd'hui. Comment ça se passe, vos cours d'anglais, Pascal ?
Quand j'étais jeune, moi j'aimais bien avec Roger Moore et Sean Connery.
Sean Connery, bel accent, ami Pascal. Et sinon, bah, ça va vous en ce moment ?
Je vais poser la question à Laurence et pardonnez-moi parce que la climatisation me joue d'un mauvais tour.
À vos souhaits, et la vidéo qui fait polémique, vous en avez parlé en fin d'émission lors d'un rassemblement d'opposition aux restrictions sanitaires. Francis Lalanne a lancé un appel à la désobéissance.
Je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, voilà.
Un avis, Elisabeth ?
Ouais, je dirais juste une chose. Les ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Oh, mais sinon, Elisabeth, allez encore plus loin.
Elisabeth, donc j'ai retiré le mot que vous avez dit parce que...
Vous avez été mis en attente.
Ah, bah mais écoutez,
Elisabeth, on peut écouter Francis Lalanne.
Bon, alors écoutons Francis Lalanne.
Très agréable. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec un peu d'amour après toutes ces polémiques.
Très belle chanson. C'est ça le paradoxe. C'est vraiment, il a écrit une belle chanson.
Bon, il en a écrit d'autres, mais celle-là est très célèbre.
Il a peut-être fait tout ça pour qu'on diffuse une de ses chansons. C'est le seul moyen.
Peut-être. Flavie Flamand, pense à moi. Hein ? Et elle entre dans le studio.
À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur